I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le replay de ce live qui a eu lieu cette semaine, le mercredi 6 octobre, sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, je vous rappelle, n'hésitez pas à venir tous les lundis soirs à 21h. On va se retrouver pour faire une émission radio libre. Là, c'était une émission un peu spéciale qu'on a fait avec Mayua, qui est la réalisatrice de ce film qui s'appelle Make Me a Man. Et on discute déjà de son parcours et aussi de ce qui l'a amené à réaliser ce film qui parle de masculinité, qui parle d'hommes, qui met en scène des hommes en fait, qui s'ouvrent, qui se parlent. Et notamment, un truc qui est très important aussi, qui vient pointer le traumatisme qu'ont pu créer chez des centaines de milliers d'hommes et chez toute une génération et leur génération future. Les traumatismes qu'ont pu créer les guerres, et notamment la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on discute de tout ça. Je vous laisse en compagnie de Maï et de moi-même, de mon moi du passé. Et puis je vous invite à aller regarder Make Me a Man. Si vous avez l'occasion, vous pouvez le louer, ou alors il est disponible sur la plateforme Brutix également. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt pour un épisode plus classique d'Histoire de Mec. Bonne journée à vous. Et bonne écoute. Bonsoir.
Hello.
Bonsoir les gens. Bonsoir Pierre, bonsoir Kikaï, bonsoir Valentin. J'espère que vous allez bien. Salut Maï.
Salut Fab.
Quelle joie de t'avoir ici.
Joie.
Oui.
Oui.
C'est le terme que j'ai utilisé.
Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, joie, partagée.
C'était marrant. Joie. Tu viens de dire joie exactement. Oui, tout à fait. C'est joie que je viens de dire. Est-ce que t'entends? Parce que là, tu vois, par exemple, bonsoir.
Non mais... C'est style karaoké, on est parti.
Ouais. Allez, c'est parti, Zozoin.
On fourre un.
Oui. Bonsoir, Wolfie Pong, bonsoir, Léa Lyon.
Hello. Bonsoir.
J'espère que tout le monde va bien chez soi. Merci à vous d'être présent ce soir afin de discuter avec la non moins géniale Mayua de... Oula. Est-ce que je sature un peu? De son nouveau film, pardon, de son nouveau film qui s'appelle Make Me a Man.
Ouais.
Qui signifie littéralement fais de moi un homme.
Tout à fait.
Parce que c'est ça que tu fais dans la vie.
Ouais.
C'est que tu
je fais des hommes.
Les mmh. hommes plus des hommes.
Ouais, ouais, ouais.
C'est
totalement.
Ton métier.
Mmh.
C'est ta mission de vie.
Mmh. Tout à fait.
Mmh. Maï, s'il faut un peu te représenter aux gens qui sont là ce soir, mais qui ne te connaîtraient pas, quelle idée. Maï, tu fais plein de choses. Tu es une sorte de couteau suisse de la création.
Ouais, si tu veux, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, disons que je fais plein de choses.
Mm-hmm. Très bien. Tu fais donc, à la base, ton métier... Tu travailles dans les couleurs.
Ouais.
Ça, c'est ton métier de base.
Ouais, mon métier de base, c'est que je suis color designer. Donc, je crée des gammes de couleurs. Ce qui est, je vous l'accorde, un peu niche.
Color designer.
Mais c'est... Oui.
C'est un métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que color designer?
Ouais. Eh bien, en fait, je crée des couleurs et des gammes de couleurs. Moi, pour l'industrie cosmétique, mais quand j'ai été formée aux arts déco, mes profs, ils faisaient ça pour des voitures, pour l'architecture, pour des produits industriels.
Mais quelle vie !
Bah, en fait, c'est une vie de fou, mais quand j'ai commencé avec mes profs, qui me prenaient en stage, ils me faisaient faire des crèches, des mairies, des bibliothèques, parce qu'en fait, un architecte, quand il livre tout blanc, en fait. Et si la mairie s'occupe de choisir les couleurs... Eh bien, l'architecte ne peut plus jamais prendre de photographies pour mettre dans son book pour dire j'ai fait cette architecture parce que c'est juste atroce.
Si c'est Josiane de la compta, si tu veux, qui dit alors bon,
Bonjour,
moi j'ai du goût parce que dans mon salon, je l'ai retapé complètement moi tout seul, tu vois.
Exactement.
D'un coup d'un seul, ça marche moins bien, quoi, c'est ça?
Eh bien, ça peut marcher sur un malentendu, mais beaucoup d'architectes trouvent que non. Hein. Et donc, en fait, ils faisaient appel à ma tutrice des arts déco. Martine Duris. Et Martine, en fait, elle me faisait travailler sur des gammes. Et moi, par exemple, j'avais commencé à travailler sur une crèche. Et tu vois, il faut, c'est pas de la déco, faut vraiment accompagner l'activité des enfants, des adultes, dans les salles, avec les couleurs que tu vas choisir. Vraiment, littéralement, du sol au plafond, quoi. Et c'est un très beau métier.
Bah, tu m'étonnes.
Ouais. Et en fait, avant, dans une autre vie, je faisais du marketing pour de la cosmétique. Et donc, c'est comme ça que mon ancien réseau m'a rappelé. Et puis, j'ai commencé à faire du parfum. Et parce que les flaconnages de parfum, l'univers coloré d'un parfum, c'est hyper important. Et donc, j'ai fait un premier brief, puis un deuxième, puis un
deuxième. C'est toi qui étais là dans les réunions, alors moi, je prendrais plutôt du vert que du jaune,
ouais,
machin, c'est ça?
Exactement. Mais par contre, voilà, je vous ai expliqué pourquoi vert, oui, et pas jaune, etc. Donc, j'avais plein de...
Parce que vert, c'est la couleur de l'espoir.
Tout à fait. De tout temps, le vert, c'est le gazon qui repousse. C'est donc l'espoir.
Gazon qui repousse. Effectivement. Là aussi, on est dans le terme de la masculinité. J'en sais quelque chose.
Il n'y avait aucune allusion cynique.
À mon crâne?
Aucune.
À mon crâne?
Non.
Au crâne de ton gars aussi?
Ouais.
Et hop. Hop, Jerry, il est... Hop.
Et ouais, Jerry, il est tout chaud.
Et merci Pierre pour ton prime, ça fait plaisir. Voilà, il y a Valentin qui demande, est-ce que t'es pas trop dégoûté que 10% de la population ne puisse apprécier ton job hashtag tatonims?
Oui, bien sûr. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était chez Lancôme, le boss de tout le département couleur. Donc c'était les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les ombres à paupières, donc tout ce qui était très coloré, il était daltonien. Et
non.
Si. Et en fait, étant daltonien, il était très très fort dans une partie de la couleur qui était les niveaux de gris. C'est-à-dire, est-ce que ta couleur est claire ou foncée? Et en fait, quand t'as du gris ou du noir ou du blanc, c'est facile de dire si c'est clair ou foncé. Quand t'as du bleu, du jaune ou du rouge, c'est pas toujours facile. Et lui, il était hyper fort là-dedans. Donc, il était daltonien, mais il voyait une partie des couleurs. C'est juste qu'il ne voyait pas la tonalité de certaines couleurs.
C'est fou.
Yeah.
Il y a Kika qui dit, mais non, bah si, apparemment.
Bah si.
Voilà. Venant de la couleur,
oui,
tu as commencé à faire un blog.
Ouais, il y a 12 ans.
T'étais à l'ancienne, hein.
J'étais à l'ancienne, mais j'étais pas non plus...
T'étais pas les tout proms.
Non, j'étais pas les tout proms. Parce
t'étais dans les premiers blogs mode à l'époque, non?
En fait, les tout proms, c'est mon frère.
Ouais.
C'est l'âme, tu vois. Il y avait l'âme, Garance Doré, Géraldine Dormoy.
2005-2006, quoi.
Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Donc, c'était quand même 5-6 ans avant moi.
C'est vrai.
Et c'est justement mon frère qui m'a dit, mais Maï, tu bosses dans la beauté depuis 10 ans, tu connais toutes les marques, tu sais comment ça se passe, tu connais le dessous des cartes un peu. Monte un blog, il me disait à l'époque, il n'y a pas de proposition intelligente. Bon, c'est un jugement de valeur, voilà, une évaluation.
Mais
et peu importe,
il n'y avait pas de truc qui te ressemblait, en tout cas, c'était
sûr
et certain.
Ouais, ça c'est sûr. Mais moi, ça ne m'intéressait pas énormément comme projet, jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo, et c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de vidéo, tu vois.
Il n'y avait pas YouTube.
Il y avait YouTube, mais il y avait...
Tout nouveau en France.
Voilà, il commençait à y avoir des tuteurs, il commençait carrément même, il y avait...
2009, oui.
Oui, il y avait carrément plein de tuteurs.
J'exagère.
Ouais. Et le fait de filmer, tout d'un coup, ça m'intéressait.
Ah.
Et c'est comme ça que j'ai commencé l'idée du blog, c'était filmer... Moi, avec mes tutos
attends,
à moi.
Attends, on va montrer, puis, parce que tu sais, vive Twitch,
mais
hein, on
oui.
peut montrer.
Et puis, c'était filmer les femmes aussi. Donc,
parce que, effectivement, alors après, on va montrer tes...
C'est dans les
portraits hein, que tu as commencé
ouais,
à filmer,
attends.
Mais alors, il y a fort longtemps.
Il y a fort longtemps. Regarde, en portrait, il y a des sous-catégories dans portrait.
Ah, et beauty portrait.
Beauty portrait, ouais.
Parce qu'après, t'as commencé à filmer ton gars, c'est comme ça que tu l'as pécho.
Exactement. C'est ouf.
C'est fou.
Elsa.
C'est pas comme ça que t'as. Si, c'est comme ça que t'as pécho.
Ouais, un peu, ouais. Oui, je dis c'est fou.
Ah, c'est fou, d'accord, j'avais compris.
Tu vois, la dernière personne que j'ai filmée, c'était Elsa. Et je me rappelle, en fait, en la filmant, donc ça faisait déjà plusieurs années que je filmais des femmes dans leur rituel de beauté. Et en la filmant, j'ai eu une sorte de. Qu'est-ce que tu filmes, en fait?
Comment ça?
Pourquoi t'es encore là à filmer une femme qui se maquille devant un miroir et tout? Et c'est la même séquence que tu filmes à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que tu viens chercher? Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, derrière tous ces rituels de beauté, je cherchais quelque chose d'autre qui était de l'ordre de la reconnexion.
En vrai, ouais. C'est vrai que tu les fais beaucoup parler.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu tes vidéos, ouais, mais ouais. De ce que je me souviens, ouais. Alors on va montrer Lydia.
Ouais. Oh là, j'ai pas revu ces vidéos depuis bien longtemps.
Ah bah écoute, c'est l'occasion. Tout sublime les femmes, hein, clairement. Non, mais c'est vrai
sont,
en plus.
Elles sont très belles.
Tu les filmes.
Alors moi, non. J'aime bien commencer par les yeux. Et j'aime bien souvent prendre un petit miroir.
Lydia qui est en plein Game of Thrones.
Je suis concentrée sur les détails.
Qui est dans la concurrence.
Ouais. J'aime bien avoir des grands cils. Souvent, quand ça dépasse un peu, je repasse un peu derrière. Avec un petit coton.
Mais effectivement,
ouais, j'aime bien quand c'est un peu graphique. En fait.
C'est un exercice un peu particulier parce que généralement, ce que faisaient les blogueuses, c'est qu'elles se filmaient elles-mêmes.
Ouais,
et toi,
ouais.
tu tournais ta caméra vers les autres gens.
Ouais,
ce
ouais.
qui est quand même c'était un délire à l'époque. Personne ne faisait ça.
Non, personne ne faisait ça. Et puis surtout, ce que personne ne faisait, et aujourd'hui ça se fait beaucoup, c'est que ça, en fait, ce qui m'a intéressé finalement, c'était l'intime. C'est ça qui m'intéressait, et c'était être en connexion avec quelqu'un que je venais filmer, mais en fait c'était juste histoire de la rencontrer, la personne. Et maintenant on fait beaucoup de portraits intimes et d'essayer de comprendre qui est la personne, comment elle vit, comment elle réfléchit, comment est-ce qu'elle ressent et tout. Et j'adore ça, qu'il y ait eu ce mouvement vers plus d'intime et plus de partage.
Et on est bien d'accord, donc ça c'était premier pas.
Ouais.
Avec la vidéo.
Ouais, c'est mes premiers pas avec la
vidéo.
Donc
ton blog finalement t'amène.
Ouais, en autodidacte total.
À l'internet. Enfin, ton blog t'amène à l'internet qui t'amène à un autre média qui est la vidéo. Quoi.
Ouais, la vidéo et l'écriture.
L'écriture.
Et ouais, j'ai commencé à écrire sur le.
T'écrivais pas du tout avant ?
Non, pas du tout.
Ah ouais ?
Ouais. Et en fait, de fil en aiguille. Ces portraits beauté ont amené des portraits qui n'avaient plus rien à voir avec la beauté, mais qui étaient autour de cette histoire d'intime et de reconnexion. Et donc, il y a eu des artistes, il y a eu des cuistots, il y a toutes sortes de gens qui créaient. Et puis, petit à petit, je me disais, mais c'est pas exactement ça non plus, parce qu'en fait, l'artiste là que je viens de filmer, l'actrice ou... Mais elle rentre à la maison, elle est débordée avec ses mômes, elle s'est engueulée avec sa mère la veille. En fait, elle a les mêmes questions que moi, quoi. Et donc, c'était un propos qui était plus général ensuite sur la beauté des gens, en fait. Quoi qu'ils fassent. Donc, il y avait des femmes qui me racontaient leurs fausses couches. Après, il y a eu une vidéo qui a été beaucoup, beaucoup vue sur le blog d'Aurélie Sylvestre, qui a perdu son mari au Bataclan.
Ah oui.
Il y avait des thèmes aussi plus légers avec Sophie Fontanelle à l'époque qui commençait à ne plus se teindre les cheveux.
Ah oui.
Et à faire son coming out en tant que blonde, comme elle dit.
Blonde.
Donc tu vois, c'était des histoires comme ça de voir la vie différemment, là où l'intime déjoue, tu vois, ce qu'on entend habituellement. Et c'était génial. Du coup. C'est à cette occasion-là que ma mère a commencé à apparaître. C'est dans ces vidéos-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, ma mère, va falloir que je la filme un peu plus. Et c'est devenu Les Rivières après.
Attends, tout part de ta mère, c'est ça ?
Non, tout part pas de ma mère, mais ce que je veux dire, c'est que...
Tout part de ton envie de filmer ta mère.
En fait, ouais, au départ, il y avait filmé, mais ça, je le savais pas. Hein, ça,
c'était
très inconscient.
Oui,
je filme... La beauté, notamment des femmes, je me rends compte qu'il y a un problème de connexion, un désir de reconnexion. Et je commence à filmer ma mère, et puis ma grand-mère, et puis en fait, ça devient un long métrage, et qui était sur ce désir-là, de reconnecter avec ma lignée.
Alors, ça devient un long métrage, mais t'en as pour 6 piges.
Mais j'en ai pour 6 piges. Et c'est là que j'en ai pour 6 piges.
Donc, effectivement, avant de faire Make Me a Man, ça t'amène à lancer ce film.
Ouais.
Effectivement que tu as fait sur 6 ans quoi.
Ouais, sur
6 ans de temps.
Ouais, ouais, ouais.
Ou comme tu dis en fait tu étais complètement autodidacte toi avec la vidéo, donc tu étais aussi autodidacte j'imagine en réalisation de
Mais carrément
de
parce que oui, c'est ça, c'est que j'avais fait des centaines de vidéos sur le blog. mais qui durait entre 5 et 8, 10 minutes. J'avais fait un 15 minutes et un 20 minutes, mais c'est déjà un autre muscle, en fait. Je sais pas comment le dire. Mmh. Et passer sur du long métrage, c'est encore un tout autre truc. Et ben oui, j'ai mis un peu de temps. Ouais. J'ai mis un peu de temps parce que je savais pas faire et parce que ça nécessitait une exploration psychologique sur laquelle j'étais pas tout à fait au point. et c'est en même temps ce qui fait le film.
T'as fait le film en même temps que tu étais en train de cheminer psychologiquement
exactement,
aussi.
Exactement.
On va regarder la bande-annonce parce que en fait, je vous fais un peu toute cette présentation de Maï un peu plus générale parce que c'est important d'expliquer d'où vient Maï en fait. Je trouve pour et ce qui t'amène à Make Me Human, c'est un vrai cheminement. Mm-hmm. J'ai l'impression.
Oui.
On en a jamais vraiment parlé.
Ah bah si.
Voilà. C'était un peu mon idée, n'est-ce pas? Je vais mettre... bougez pas, je mets du son.
La famille, c'est tout sauf simple. Il y a des malentendus, des secrets. Il y a de la peine. Et puis tout ce passé dont on hérite sans rien y comprendre, c'est compliqué pour tout le monde. Mais avec ma mère, ma grand-mère et ma fille, on s'est dit qu'on pourrait faire face. On a décidé d'y croire. De croire que les femmes et les enfants pouvaient avoir une voix aussi. On s'est mis à parler, à s'écouter, à se soutenir. On s'est pas mal engueulé aussi. La vie, quoi. Je m'appelle Maï Hua et j'ai réalisé Les Rivières pour vous partager mon histoire parce que, tout aussi singulière qu'elle soit, mon pari est qu'elle touche aussi à l'universel. Cette expérience a pris 6 années de ma vie, elle m'a totalement transformée. Parce que ce fut à la fois un combat et une grande déclaration d'amour, et que l'amour, ça change tout, n'est-ce pas? Depuis sa genèse, ce projet a été soutenu par une communauté magnifique, des femmes, des hommes, leurs mères, leurs familles, qui ont été bouleversées par ce récit documentaire que je vous invite à découvrir aujourd'hui.
Bonsoir. C'est génial. Ah. Alors, attention, j'en profite pour te dire merci Maï, parce que ça résonne fort pour moi comme pour d'autres. Merci. Ce film, si vous êtes une femme, regardez avec votre maman, n'est-ce pas?
Ouais.
Potentiellement les autres femmes de votre famille. Normalement, ouais. Ça secoue bien le cocotier, quoi.
Ouais, et puis si vous êtes un homme, c'est aussi à regarder avec les femmes que vous aimez, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui reviennent vers moi et qui me disent... J'ai eu la conversation de ma vie avec ma fille où, en fait, je comprenais pas MeToo. Maintenant, je comprends totalement. Et donc, ça passe par autre chose que de l'intellect. Tu vois, ça passe par
les tripes.
Ouais.
Les tripes. Et comme tu dis, en fait, effectivement, c'est ton histoire et c'est votre histoire familiale, mais finalement, tu touches à l'intime, en fait. C'est tellement.
Ouais.
C'est tellement intime que ça en devient universel. C'est ce que je voulais dire à la place dans ma tête.
Ouais. J'avais pas un désir d'universalité dans le sens où. Moi, j'ai un travers très, 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 très fort de vouloir plaire. Donc si j'ai un désir d'universalité posé comme base de départ, je vais faire de la merde. Parce que je vais vouloir plaire à un public sur des désirs projetés sur eux. Donc là, sur ce projet-là, il fallait vraiment que je sois à l'intérieur de l'intérieur. C'est ça l'intime, en fait. Et c'est là, effectivement, que ça a parlé à beaucoup de gens.
Venant de là, bah donc ton film est encore disponible en VOD. Et il tourne encore dans des cinémas, je vois d'ailleurs. Hein, tu continues à faire des projos, c'est ça?
Ouais. Là, il va y avoir beaucoup de projos. J'ai un festival féministe Gisèle Halimi à la mairie des Lilas, au cinéma des Lilas la semaine prochaine, le vendredi 15 octobre. Il y a une projection le 16 aussi, quelque part dans la montagne, je ne me rappelle plus exactement de la ville, mais je laisserai toutes les infos pour ceux et celles qui veulent. Et puis, on va essayer de le faire vivre sur des projets comme ça, un peu un peu exceptionnel avec
c'est
des
cool
rencontres.
De le voir au ciné, hein, si vous avez l'occasion, non, plutôt que de le voir sur votre ordi.
Ouais, non, c'est sûr, c'est dingue au ciné.
C'est canon.
Ouais.
Et puis souvent, tu fais des. Alors, je sais pas si tu le fais encore, mais souvent,
ouais.
à chaque fois, il y a des discussions, c'est
ouais,
ça,
ouais,
avec le public.
C'est ça, ouais, ouais. Et quand on fait ça, le film il fait 1h30 et il y a 1h30 de débrief, quoi, parce que les gens ont tellement, tellement de questions à poser et c'est hyper beau parce que aller au cinéma, c'est pas uniquement pour vous prendre le film avec de belles images en grand et un son. C'est pas ça. C'est partager une expérience avec 150 personnes à côté de vous. Que vous connaissez pas et en fait qui vont partager cette même émotion, ça c'est fou quand même, c'est magique, hein, c'est trop beau.
Bravo. Make Me Human, pour le coup, c'est un projet qui date aussi d'il y a quelques temps, c'est
ouais,
ça
il y a trois ans.
Ouais. Et que moi j'avais vu sous une première forme qui s'appelait d'ailleurs pas Make Me Human à l'époque, vous l'aviez appelé Remarkable Men.
Ouais,
c'est ça,
Meetings with Remarkable Men. Ouais, c'était un clin d'œil au travail d'une sorte de mystique des années 70 qui s'appelait Gurdjieff.
Ok.
Et un film avait été fait sur lui qui s'appelait comme ça, Meetings with Remarkable Men. Et on trouvait que ça sonnait peut-être un petit peu viril. Et donc quand on a travaillé sur la seconde mouture, en fait, on a cherché autre chose. Et Make Me Human, ça nous a parlé parce que c'est un des vers d'un des poèmes auxquels on fait référence dans ce film, parce que il y a beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale, et en fait dans la culture anglaise c'est là où on a les plus grands poèmes de la culture populaire actuelle. C'est des jeunes soldats en fait romantiques qui sont partis, qui se sont battus, et pour certains qui sont morts. Et ce vers a été écrit 15 minutes avant qu'il meure, quoi. Et voilà. Et donc, c'est fait de moi un homme, parce que c'est aussi l'histoire de se dire, un homme, c'est une construction, et c'est une graine qu'on plante, quoi, tu vois, avec certainement un destin, mais c'est aussi un environnement et une construction. Et donc, l'idée, c'est pas nécessairement de démêler l'un de l'autre, mais c'est de dire quelle construction de toute façon.
Ok.
Ouais.
On regarde la bande-annonce, et après, je voudrais montrer aussi les deux premières minutes du film qui sont.
Yeah.
Qui explique pas la teneur.
One second. Come on. Sounds big.
Somewhere in my early 40s, I had this kind of moment where I just woke up and went, okay, fuck it. So I'm a potential rapist. It's just I choose not to do it.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Terrible.
I've got a better relationship with my mum now. I've talked about sexual abuse. I was hard. You're going to be laughed at by men and despised by women.
As I've been working with women for such a long time, I was longing to know what was happening on the other side. And what I found is that there's no other side.
I started to question, but why does that resonate with me now? And I realized, oh, fuck. You know, I want my dad. I want my dad to say, well done. I want my dad to say, I'm proud of you.
Tellement l'histoire de plein de
petits garçons. I've pulled out of myself resources, and I've learned how to express my emotions and experience to other people. That all those things are really valuable.
Nothing scares me anymore.
I still dream about having someone near at hand to whom I could say, I love you.
If I wasn't working on myself, I'd probably die of something. The bond that's created is phenomenal, you know. If you can get there, it's amazing.
By all of all man's hopes and fears, and all the wonders poets sing, the laughter of unclouded years, and every sad and lovely thing, by the romantic ages stored with high endeavour that was his, by all his mad catastrophes, make me a man, O Lord.
C'est fort, hein, les images.
Merci.
Je voudrais, j'en profite après. On va montrer tout de suite ces fameuses deux premières minutes, je trouve, qui posent le truc. Alors, rien à voir, Maï, mais tu filmes avec quoi ? Nous demande Pierre.
Je filme avec un Panasonic GH5. GH6, peut-être.
GH7, 8, 12. Est-ce que tu es en train de dire que
le
la caméra...
Le dernier GH, quoi.
La caméra ne fait pas le travail.
Si, un petit peu.
Un petit peu, quand même. Ah, t'as des flous, meuf, ils sont beaux. Hein. Vraiment, t'es là, y a des focus, des refocus, là, on est sur du gros taf. Hein. très bien, je vous montre les deux premières minutes. Super petit maille. Alors, hop.
Head on the other side.
Qu'est-ce qu'il est beau.
I think I was very much a neutral person till I was 40. I think I tried to play a position in the middle where I was neither man nor woman, and that didn't really work for anyone. And I think this was as a result of growing up in kind of 1960s, 70s feminist Britain, where the message that I somehow ingested was that all men were potential rapists. So in order not to be part of that, I just shut everything down. And somewhere in my early 40s, I had this kind of moment where I just woke up and went, okay, so what if I am? What if I stop fighting it? What if I stop rejecting this and go, okay, fuck it. Fuck it. So I'm a potential rapist. It's just I choose not to do it. And that changed everything, because instead of avoiding my masculinity, I think I was able to embrace it, but feel in charge of it, and have mastery over it, and be in control of it. And I think for me, that's what a man is. A man is someone who's got all those dark, dangerous sides to themselves, to himself, but contains it, and is, you know, is in charge of his own beast, his own demon. That's what I think is so important for me in working with men. They wouldn't do it in the pub. They probably wouldn't do it in front of their families, but you put men in a room with other men who are willing to show their emotions, who are willing to break the societal rules of being tough and strong and hard all the time, and you give them an opportunity to explore their tenderness. They're incredibly tender if you just give them a chance. And it's not complicated. All you got to do is give them space to talk with permission to be themselves. And they will be very, very tender. And that's what we need to encourage more and more.
Voilà, je crois que si ça donne vraiment, je trouve, le... un très bon aperçu du travail de Jerry et de ce qui et même de ce que ce film aussi raconte quelque part en filigrane. On va reparler juste après, Tribus, si tu veux bien, du coup des hommes qui partent à la guerre, parce que c'est un vrai gros sujet très central.
Ouais.
Et je trouve que le film amène quelque chose dont on a trop peu parlé.
Ouais.
C'est le traumatisme
bien sûr.
Sur des générations liées
bien sûr.
À ces guerres, quoi.
Bien sûr.
T'avais pas interviewé ce mec Fab, mais si, exactement, j'avais fait ma toute première interview d'histoire de mec en anglais avec Jerry,
ouais.
Et c'était vraiment super. On a parlé bah, justement de son père violent, on a parlé de ses groupes avec qui il est aujourd'hui thérapeute, de groupes de parole de mec qui fait depuis 20-25 ans.
Oui, il a commencé il y a 25 ans. Ouais.
Il a commencé au départ avec des hommes violents parce que c'était un peu son truc.
Voilà, en fait, il a commencé au tout départ avec des hommes violents. Parce que, bah, on l'explique dans le film, et parce qu'il détestait les hommes, et parce que il voulait sauver les femmes
bah oui.
et l'humanité de la violence masculine.
Le chevalier blanc.
Voilà. Et puis en fait, il s'est rendu compte que il était, enfin, il faisait partie d'un programme féministe de déviolentisation et qui marchait très très bien. Donc en fait, lui, il a participé à vraiment sortir les hommes, certains hommes, pas tous hein, bien sûr, mais certains, à les sortir de la violence, du cycle de la violence. Et donc à avoir moins de femmes tapées, moins d'enfants tapés, moins d'autres hommes tapés aussi. Et puis en fait, bah, il a fait ça pendant 7 ans. Et après, il a ouvert des cercles d'hommes qui n'étaient pas nécessairement des hommes violents. Et dans les cercles d'hommes violents, il y avait à la fois... des prisonniers qui étaient obligés de faire ces parcours. Et il y avait des hommes qui y allaient de manière volontaire parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient un problème. Quoi. C'était un mélange.
Et donc ce film est un peu le fruit de votre rencontre avec Jerry il y a combien de temps ?
Il y a 6 ans.
6
ans. Ouais.
Vous êtes rencontrés. Justement, on parlait tout à l'heure que tu l'avais filmé pour ton blog.
Ouais.
C'était comme ça que tu l'avais un peu...
Mais pas du tout.
Ah, vas-y, wesh.
Mais pas du tout. Pas du tout.
T'as le droit de le dire en exclusivité non. sur la chaîne Twitch.
En exclusivité sur Twitch. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai rencontré il y a 6 ans. Il
ouais.
était venu en France pour présenter son bouquin qui s'appelait, qui s'appelle toujours Play from Your Fucking Heart. Donc de la thérapie, mais un peu rock'n'roll. Donc pas un truc, je sais pas, un truc spirituel. Mais plus Rolling Stones et The Doors qu'un truc de Kundalini, quoi. Et qui peut être très bien aussi, hein, mais c'est pas son truc. Et moi, en fait, j'étais venue là et je comprenais rien, mais absolument rien à cette conférence. Donc je voyais ce thérapeute là assis sur un canapé avec une nouvelle copine à moi qui l'interviewait, et c'était pour ça que j'étais venue. Et puis vraiment, je comprends rien à ce qu'il dit, quoi. Et par contre, je me dis, mon thérapeute ne ressemble pas à ça. Ça, c'est vrai. Je me dis, tiens, oui, je pensais pas qu'on pouvait être thérapeute et ressembler à Jerry. Et je me suis dit, j'ai un blog beauté, je vais le filmer pour mon blog. Et moi, j'avais déjà commencé un cycle où je me disais, je vis dans un monde que je trouve quand même assez violent. Je réussis très très bien dans ce monde. Il y a nécessairement quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc, j'avais déjà commencé un cycle de vidéos qui s'appelait Out of the Box, de réfléchir à ça sur, voilà, il y a des gens qui pensent différemment les choses. Et il va falloir que je les rencontre parce que moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ça c'est sûr. Et donc, voilà. Donc, je lui ai proposé de venir le filmer, et puis il se trouve que lui est rentré sur Londres et c'était plus possible. Et donc voilà, je lui avais dit, tu sais qui je suis, je sais qui t'es, le premier qui bouge prévient l'autre. Et 2 semaines après, j'ai un job pour Londres, quoi. Non mais t'y crois, j'ai un job pour Londres et j'ai 6 rendez-vous sur 6 mois. Et ça ne m'est jamais arrivé avant, ça ne m'est jamais arrivé depuis, d'avoir un truc à l'étranger et ça se passe à Londres, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc je suis allée le filmer, mais on n'était pas amoureux à ce moment-là.
Pas tout de suite.
Non, ça a pris 6 mois, c'était assez long, c'était lent et je cherchais quelqu'un d'autre.
T'étais sur un autre coup, quoi.
J'étais sur un autre coup.
Tu peux le dire.
Oui, j'étais carrément sur un autre coup. Je voulais quelqu'un d'hyper
moins
jeune, qui partir en banlieue, faire un troisième bébé et avoir un chien. Donc pas tout à fait tout à fait ça, quoi.
On est sur une barbe qui a pris beaucoup d'ampleur, ouais, hein, on voit depuis ces années.
Oui, ça c'est vrai, ouais.
Il y a 5 ans.
Mm-mm.
Putain, j'avais vu ces vidéos. Vraiment, ouais. Ce mec m'avait fasciné.
Bah, bien sûr, parce qu'il a, il a quelque chose de très charismatique. Et en fait, quand j'ai su qu'il avait ces groupes de paroles d'hommes, mais j'ai voulu tout de suite faire un film dessus. Déjà, je ne savais pas que ça existait, des groupes de paroles d'hommes. Et ensuite, moi, je pensais que c'était un truc assez, assez viril. Et ça m'intéressait, en fait. Ça m'intéressait. Et ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que c'était pas du tout viril. Pas dans le sens féminin, enfin, peu importe les mots qu'on peut mettre dessus, mais c'était des cheminements très, très humains, très, très sensibles, très vulnérables. Et c'est ça que j'ai découvert en découvrant tous ces rushs et ces interviews qu'il a faites. Ils ont fait ces interviews entre eux.
Ouais. Et puis, t'as pas du tout participé aux interviews.
Non, bah non, ils auraient jamais parlé devant une personne qu'ils connaissaient pas, jamais. Et donc, ouais, Jerry il dit souvent que c'est un film qui a pris 20 ans de pré-production, quoi. Parce qu'il faut, enfin, je sais pas si, enfin, toi tu vas, t'as un coach ou t'as une thérapeute, mais quand t'y vas, tu dis des choses hyper hyper intime, hyper secrète. Donc, les dire devant une caméra, il faut quand même être super en confiance pour faire ça. Donc, ouais, lui, il ne voyait pas l'intérêt de faire ce projet. Mmh. Et il avait déjà été approché par plusieurs télés, pour les raisons qu'on vient de dire, tu vois. Et il avait toujours refusé parce qu'il trouvait que... Enfin, il pensait que ça allait compromettre le travail avec ces hommes. Et en fait, un soir, enfin, il y a eu MeToo. Et donc, Moi, je leur ai dit, non, mais les gars, en fait, vous pouvez pas garder ça entre quatre murs, là. C'est pas possible. On a tous on n'est pas tous coupables de ce qui se passe, mais on a tous une responsabilité sur ce qui va se passer. Et on a absolument besoin que vous partagiez vos expériences et qu'on sache ce qui se passe derrière ces murs, quoi.
De montrer que c'est possible, en fait.
Oui, de montrer qu'il y a des cheminements, qu'il y a une évolution, qu'il y a aussi, tu sais, tout ce qu'ils disent sur « to be accountable », donc d'être comptable de ta parole, d'être responsable, de ne pas avoir d'impunité, d'avoir, tu vois, tout ce côté-là. Et deux, en fait, moi, ce que j'ai découvert avec cette vidéo avec Jerry, c'est que la thérapie, c'est pas uniquement pour guérir d'un problème.
Oui.
Ce que le mot laisse entendre, et ce que beaucoup de thérapeutes te proposent d'ailleurs. Et souvent, quand tu vas en thérapie, en général, c'est parce que t'es en crise. Tu vois, tu dois éteindre le feu de la crise et « Au secours !» Tu vois, c'est ma femme m'est quittée, mes enfants me parlent plus, je suis addict à la drogue depuis 42 ans et je viens de mettre un mot dessus. J'ai toujours cru que j'étais pas du tout accro, mais en fait, faut se dire la vérité, je suis accro. Et donc voilà, c'est au secours. Et en fait, souvent, en 2 mois, en fait, les feux ils sont éteints, mais il y a un cheminement et une exploration qui commence à s'installer. Et en fait, ce cheminement, cette exploration, ça peut durer toute une vie, ça peut devenir ton lifestyle, quoi. Et en fait, quand t'as des groupes de paroles d'hommes, avec des hommes qui viennent toutes les 2 semaines dans leur groupe et que ces groupes ont parfois 20 ans, mais en fait, ils ont une parole qui est incroyablement fine, incroyablement... Je sais pas comment dire. Il y a une éloquence, mais de cœur, quoi. Je sais pas comment dire.
Ouais,
mais...
et puis tu sens qu'ils ont...
Il y a une sincérité, en fait.
Creusé le sujet, voilà, tellement fort qu'ils arrivent au vrai, en fait,
ouais,
tu vois,
c'est
au
ça.
Bout d'un moment.
Exactement. Donc, ils ont enlevé les couches et les couches et les couches et les couches de peur, en fait.
De
ils sont libérés
de
plein...
faux semblants,
de
masques qu'il faut qu'on mette dans la société, etc.
Et du coup, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à écouter ces interviews.
Ah.
Ouais. J'avais un vrai truc de « Non, mais attends, on va pas quand même leur donner la parole maintenant aux hommes. » C'est bon, on les a écoutés beaucoup trop longtemps, place aux femmes et tout. Et puis, je me suis dit « Non, mais attends... »
Dans Maï, t'as déjà entendu parler des hommes de leurs émotions?
Non, mais justement, et tu sais, je me suis surprise dans ma réaction. Ouais. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette réaction de merde ?» Et je me suis dit « Ben, va falloir que t'évolues aussi, en fait. » Et donc, c'est là où je me suis dit « Il faut que je fasse ce film parce que moi, il faut que j'évolue personnellement. » Et je pense que à chaque fois que je fais quelque chose, c'est la seule motivation, en vérité.
Oui, il y a
c'est...
un côté thérapeutique dans ton travail.
Ouais,
Autothérapeutique, en
fait. Ouais, autothérapeutique, ou de vraiment explorer tous les coins sombres aussi de mon expérience ou de ce que je peux amener comme jugement et comme violence aussi. Et voilà, je me suis dit, mais il faut absolument que tu déconstruises ce truc de les hommes doivent absolument être forts, te protéger, et parce que moi c'était ça mon truc après MeToo. Tu vois, en fait, quand je leur disais, il va falloir que vous montiez au créneau, les mecs, c'est va falloir nous protéger. C'était un désir de protection. Et je me disais, il faut que tu déconstruises ce truc. Et en fait, il faut qu'on... C'est pas nous, victimes, et vous devez nous protéger. C'est tout le monde doit réévaluer pour avancer de manière égale, respectueuse. Et puis surtout, où les choses deviennent horizontales. Et donc, une parole, si c'est cette parole-là... En fait, il faudrait qu'on écoute un peu moins Éric Zemmour. Et beaucoup plus ces gens-là.
Beaucoup plus Jerry.
Et beaucoup plus, ouais. Ouais.
En plus, donc... désolé, mais il est plus beau, quoi. Non, mais tant qu'à faire.
En plus, mais tu vois, je me suis dit, après, quand j'ai passé ce truc, je suis tombée amoureuse de ces mecs. Parce que cette nudité et cette honnêteté, ça, je sais pas, ça me mettait des frissons tout le temps, en fait.
Comment on fait pour voir le film, nous demande Pistachio Note. Je vais te mettre le lien dans le...
Voilà.
J'ai pas fait la commande Koneko, désolé. Je me suis rendu compte là. Mais ouais, vous pouvez aller voir le film sur Make Me a Man. Il est aussi dispo sur Brutix dans une version un peu raccourcie.
Ouais, un peu plus courte, ouais.
Là, c'est le Director's Cut.
Exactement.
Excusez-nous.
Ouais. On a fait un truc plus long, on s'est fait plaisir aussi.
Et effectivement, le film est, donc il y a ces entretiens là sur fond noir très ouais. très brut ouais. où les mecs se livrent de façon ultra sincère, mmh. Parlent de leurs histoires avec leur mère, de leurs histoires d'abus sexuels mmh. pour certains. Il y en a un qui raconte son cheminement par rapport à son homosexualité. Mmh. Il a quel âge?
79 ans. Ouais.
Donc à l'époque où vraiment ça devait pas être fastoche, quoi. Ouais. Et alors le film est en anglais sous-titré, donc vous ne vous inquiétez pas.
Ouais.
C'est très possible de pouvoir le voir si vous ne parlez pas. La langue de Shakespeare.
Ouais.
Mais effectivement, le film est également. Il y a une autre storyline, entre ouais. guillemets, dans le film, mmh. qui est ce voyage sur les champs de bataille de ouais. la Première Guerre mondiale, de la bataille de Somme. De la
ouais,
Somme.
De la Somme, exactement.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Pourquoi
ouais.
Avoir ça ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, en fait, ça fait partie d'une exploration. Alors, il y a deux choses. Il y a le côté. Culturel, parce qu'en mmh. fait, les Anglais, ils sont très, très, très... comment dire? Les commémorations, en fait, c'est un truc hyper populaire en Angleterre. Dans le sens populaire, ça fait partie de la culture populaire
okay.
en Angleterre. Quand tu vas en novembre à Londres, tout le monde porte le coquelicot à la boutonnière. Mais tout le monde. Enfin, je veux dire, des jeunes filles de 16 ans, des jeunes hommes de 25 ans, des vieux de 98 ans. Tout le monde.
Qu'est-ce qui se passe culturellement par rapport à chez nous où on a tendance à l'avoir oublié?
Alors, en fait, chez nous, il y a je pense qu'il y a une grosse crispation autour des deux guerres mondiales.
OK.
Qu'on a un peu perdu.
Ah ouais.
Mais qu'on n'a pas vraiment. Montrer comme ça, tu vois. On a été dans le camp des gagnants, mais nous-mêmes, on a perdu les batailles.
On a oui, perdu. Et donc, on s'est fait rétamer la gueule, très clairement.
Et donc, il y a la France, en fait, l'histoire française, elle a un storytelling qui est beaucoup dans le mensonge, en fait, qui est beaucoup dans le déni.
Alors que...
Et il n'y a, pas beaucoup de choses, en fait, même si tu te souviens de nos cours d'histoire... tu vois, on peut parler d'autres choses sur la colonisation, la décolonisation, etc. C'est en train de changer. Moi, déjà, je vois les cours de mes enfants, ça n'a rien à voir avec les cours ouais. qu'on avait, quoi. Donc, déjà, le rapport à la guerre en France, il est totalement différent. Et les Anglais, ils ont un vrai truc sur la commémoration, sur les commémorations, etc. Donc ça, ça fait partie déjà de la culture populaire anglaise. Ensuite... Jerry.
Il y a une ouais. forme d'entretien du souvenir, tu veux dire? J'ai un peu l'impression ouais. qu'on a oublié ça, nous, en France.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, bon, déjà, les poilus sont quasiment tous morts, tu
ouais,
vois.
Mais en Angleterre aussi. Mais pourtant, c'est toujours hyper, hyper vibrant dans l'âme anglaise. Et nous, nous on se dit, les vétérans, c'est des vieux schnucks qui votent FN, quoi. Tu vois ?
Ok.
On a ça comme rapport à nos vétérans. On n'a pas un truc fort, sauf s'ils font partie de nos familles et qu'on a des histoires, etc.
Mais est-ce que la parole...
On partage.
Justement, est-ce que la parole se partage plus, tu crois, en Angleterre que...
Alors, on ne peut pas dire que la parole se partage plus en Angleterre, ça, c'est pas vrai. Mais il y a un truc sur ces commémorations qui sont très, 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 très fortes. Et tous les Anglais portent un peu dans leur cœur les vétérans, les personnes qui sont mortes sur le front. Et il y a notamment un événement qu'on raconte dans le film, qui est celui des Pals Battalion.
Ouais.
Et en fait, ils ont dit aux jeunes futurs soldats qui avaient 17, 18, 19 ans, si vous partez avec vos potes, on vous envoie ensemble.
Ça, c'est terrible.
Donc en fait, ils sont dit, mais génial, en fait, on va pouvoir faire la guerre ensemble. Donc ils sont partis des classes entières, des équipes de football et tout. Et en fait,
ils sont partis clairement la fleur au fusil, c'est le fameux truc.
La fleur au fusil. Et en fait, ils se sont fait charcuter en une demi-heure. Il y a eu des 100 000 morts, je crois, sur la première heure de la bataille de la Somme pour les Anglais. Et donc, ils sont vraiment, ça a été de la chair à canon, littéralement. Et donc, moi, ce que ça m'a apporté. Alors, il y a Jerry dont le grand-père a fait la Première Guerre mondiale et dont un grand-oncle est mort enterré dans la Somme. Et donc, il a un questionnement de bah, moi, en fait, quand j'hérite en tant qu'homme de cette histoire, qu'est-ce que j'en fais et de quoi j'hérite, en fait. Et moi, dans Les Rivières, j'avais vraiment travaillé sur l'héritage et inconscient. Et la mémoire transgénérationnelle, est-ce qu'on se refile inconsciemment de génération en génération? Et ce truc peut être genré ou sexué. Donc souvent, les femmes vont hériter d'une certaine histoire et les hommes vont hériter d'une certaine histoire. Et en fait, pour moi qui suis vietnamienne peut-être, où ça n'a pas été sexué justement, tout le monde a fait la guerre au Vietnam. Mais en Angleterre ou en France, les hommes ils partaient au front et les femmes elles restaient au village. Et du coup, il y a des villages entiers où les hommes ne sont jamais revenus, ou quelques hommes sont revenus.
Ceux qui revenaient, ils étaient...
Et ils étaient totalement traumatisés, sans mots pour raconter leur histoire. Et donc, cette culture des taiseux et de « on n'en parle pas », en fait, tu ne peux pas la décorréler de ces traumatismes-là. Mmh. Et comme ça n'a pas été déterré, ces traumatismes... Il continue à perdurer. Et donc, il y a un vrai truc sur le silence, et le silence des hommes, et leur incapacité à parler de leurs émotions, parce qu'en fait, ils sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces hommes-là.
Tu racontes d'ailleurs, en voix off, à un moment donné, qu'il y avait dans les anciennes, dans les tribunes à guerre...
Même chez les Romains, ouais, de la Rome antique, ouais.
Voilà, un vrai parcours de... comment dire, de réparation
De réintégration, en fait. Il y avait des rituels. Ils appelaient ça, en anglais, on dit cleansing, donc de nettoyage, mais spirituel, en fait. C'est-à-dire que quand un guerrier revenait de la guerre et qu'on le ramenait dans un temps de paix et dans une société de paix, il fallait qu'on le switch, tu vois. Et quand tu pars à la guerre, t'as tout intérêt à mettre tes émotions de côté. Et tu vois, on en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid, les infirmières, elles disaient, bon là...
Pas le temps.
Là, il faut que je me referme pour pouvoir être efficace pour d'autres personnes et pour servir les autres. Et puis on gérera ça plus tard, quoi. Et il y avait ce truc-là de, on apprend à switch off, à éteindre tout ça. Le problème, c'est que quand tu reviens et que tu ne sais plus switch on, parce que plus personne n'est là pour t'accueillir, parce qu'on sait pas, on sait plus le faire, mais en fait, tu crées des cultures masculines traumatisées et qui pensent toujours qu'elles ont une guerre à faire. Et tu vois, aujourd'hui, on est en temps de paix, parce qu'on parle de ces guerres-là où on envoie des tanks et des hommes armés, mais en fait, t'as des guerres commerciales, t'as des guerres financières, t'as de l'espionnage, t'as toutes sortes d'autres guerres qui disent pas leur nom. Et peut-être qu'il y a un lien quand même. Peut-être qu'il y a un lien.
Moi, je vois exactement de quoi tu parles. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc, effectivement, où il ne faut pas parler.
Ouais.
Et parce qu'en fait, c'est tellement douloureux qu'il ne faut pas en parler. Et en fait, j'avais vu un très chouette documentaire de Gérard Miller sur, qui est disponible sur YouTube, d'ailleurs, ouais. On l'avait regardé en live sur Gérard Depardieu. Alors, pas du tout condescendant, enfin, tu vois, pas du tout condescendant vers Depardieu, qui montrait aussi ses aspects négatifs, etc. Et en fait, qui parlait du fait que Depardieu, ne parlait pas, parce qu'en fait son père était lui-même mutique, et au début de sa carrière en fait le mec a cartonné dans un rôle mutique,
ouais.
Et en fait à partir du moment où il a dû commencer à monter sur scène et à dire des trucs, il a dû faire tout un travail lui-même de déconstruction, de parler, parce qu'en fait il n'arrivait pas à parler,
bien sûr, il bégayait,
enfin tu vois, il n'était pas du tout dans ce truc, et en fait c'est ouf que le mec se soit fait repérer pour un rôle où il ne parlait pas,
parce que son
propre père lui, il causait pas quoi.
Et bien quand tu... je sais pas si t'as lu ce livre sur Trump, écrit par sa nièce.
J'ai pas lu le livre, mais j'imagine, en fait,
c'est Les Rivières, appliqué à la famille de Trump. Horrible, horrible. Et en fait, tu vois comment le père Trump a créé une culture familiale autour de l'argent, mais surtout autour de cette forme de réussite. Et que tu vois, il a vraiment élevé ses garçons, parce qu'évidemment, les deux filles, hors de question qu'elles héritent du trône. Mais comment il les a montés les uns contre les autres, etc., pour voir lequel allait le mieux s'en sortir. Et en fait, Trump, il a choisi Trump, qui était le deuxième et pas le premier.
Donc Donald,
parce qu'il mentait vachement mieux que le premier. Tu vois. Et en fait, lui, il était sociopathe, il avait aucune émotion, etc. Et Trump, en fait, il a grandi avec un père sociopathe et une mère qui, a deux ans, quand il avait 2 ans et demi, a fait 1 an d'hôpital. Donc, en fait, maxi-traumatisme et en fait, un petit garçon qui ne grandit pas, qui n'a pas grandi depuis ses 2 ans et demi, quoi.
Ça se sentait, d'ailleurs.
Et donc, tout le monde disait, mais il se comporte comme un petit garçon. Non, mais en fait, c'est un petit garçon. Et donc, ça me fascine, en fait, parce que ces histoires de traumatisme, ça arrête le développement d'un être humain et aller dans ces cercles d'hommes et te déposer. En fait, ça te permet de grandir là où tu t'es arrêté. Parce que tu pouvais pas, en fait, c'était trop dangereux.
Est-ce que t'as vu Succession, parce que je vois que Koneko en parle dans le chat. Est-ce que t'as vu cette série qui s'appelle Succession?
Non.
Qui est, en gros, l'histoire d'une famille qui a un monopole qui est énorme de tu vois, une sorte de Murdoch, quoi, tu vois.
Ouais,
donc,
ouais,
à la fois des médias, des croisières, des parcs, etc. Et effectivement, en fait, tout le truc repose... En fait, c'est pas vraiment l'histoire de cette boîte, mais c'est l'histoire familiale. Et autour
Bien
d'un
sûr.
Père qui pèse tellement fort sur ses enfants, qui les monte les uns contre les autres en permanence, etc., etc. Si t'as l'occasion de regarder, franchement, c'est un bijou à regarder, parce que c'est... Et là encore, à fond masculinité toxique, parce que le daron, il a genre 70-80 balais, il passe son temps à dire qu'il va laisser la place à ses enfants... Et en même temps, il n'a pas du tout envie, parce qu'il se rend bien compte que sinon, la prochaine étape, c'est d'aller mourir. Quoi,
ouais,
tu vois,
bien sûr. Ouais.
Et cette série est vraiment fabuleuse à regarder. Quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Mais en tout cas, le truc que ça m'a révélé, parce que moi, en tant que femme, ce prisme de la guerre, je n'avais pas du tout.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Pas du tout. Et quand en fait j'ai vu ce truc se dérouler, donc moi j'ai filmé cette partie-là, ce pèlerinage, et il faisait 4 degrés, mais laisse tomber, il pleuvait et tout, j'étais trempée. Et moi j'avais un pauvre impermougie en plastique, tu vois.
On voit dans le générique, t'es là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être amoureuse, hein.
Et eux, tu sais, ils ont tout leur attirail en Gore-Tex et tout, ils étaient là, mais mate, qu'est-ce que t'as pas compris dans... On va faire un pèlerinage dans la Somme en novembre. J'étais, je sais pas, moi je sors pas. Donc j'ai pas l'attirail, quoi. Mais eux, ils étaient.
Je crois pas qu'on l'ait dit là, mais Jerry incorpore vraiment ses voyages, ses pèlerinages, comme tu dis, à sa thérapie.
Exactement. C'est-à-dire que lui, il a donc des thérapies en individuel, avec des hommes, des femmes, des personnes en transition aussi. Et puis il a ses groupes de parole, et ensuite il fait des retraites, des pèlerinages, etc. Et parce que pour lui, l'aspect expérientiel est hyper important, et la thérapie qu'il pratique, c'est pas du tout une thérapie freudienne, très sur l'analyse du passé. On appelle ça...
Dans le corps.
Alors, il y a le corps, mais tu vois, dans les cercles de parole, ils parlent quand même.
Oui.
Et ils appellent ça humanistique. Donc c'est vraiment sur la dynamique relationnelle. Et c'est un tout autre travail qui est plus rapide sur certains aspects, mais plus dur. Parce qu'en fait, dans la thérapie freudienne, tu peux te conforter. Et on connaît tous des gens qui font de la thérapie depuis 20 ans. Et puis en fait,
oui, ça n'amène nulle part.
Ça sert à rien du tout. Alors que là, en fait, t'es confronté sans cesse à ce que tu renvoies. Donc là, tu vois, tu vas me dire quelque chose et le groupe va te dire, bah là, ce que tu nous renvoies, c'est ça. Donc c'est hyper dur parce que c'est vraiment, tu te confrontes à un miroir qui t'est tendu et qui est pas déformant.
Trop intéressant.
Ah bah c'est génial. C'est génial. Mais faut être, je sais pas qu'il faut être prêt, mais c'est plus confrontationnel. Ouais.
Tu connais des équivalents de groupes comme ça en France ou il y a des thérapeutes qui font ça?
Alors il y a équivalent et pas équivalent. Angelo maintenant, il a Angelo Follet.
Ouais, ouais. Angelo Follet.
Qui fait aussi de la thérapie humanistique. Il a plusieurs groupes d'hommes maintenant. Il y a aussi le Mankind Project qui organise des retraites, etc. Je les connais pas bien. Et c'est un peu plus, pas masculinisme, c'est un peu plus viril. C'est un peu plus, c'est quoi être un homme? Mais quand même en lien avec la vulnérabilité, etc. Mais bon, je crois que il y a plein de rituels de passage, on va se battre dans la boue. Enfin, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais c'est voilà. Et moi, ce que j'ai découvert en découvrant les interviews et ce qui se racontait avec Jerry, parce que moi j'étais persuadée que c'était ça, c'est on se retrouve entre hommes pour discuter de masculinité. Et en fait, Jérémy me dit, mais moi, ça m'intéresse pas du tout le genre. Je dis, non, mais tu peux pas me dire que ça t'intéresse pas le genre. Tu te réunis en cercle de parole d'hommes depuis 20 ans. Me dis pas que ça t'intéresse. Et en fait, il me dit, mais je t'assure que ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, je comprenais pas. Et quand j'ai regardé les rushs et qu'on a travaillé sur le film, là, j'ai compris. Parce qu'en fait, ce dont ils vont discuter, c'est. Je suis au bord du divorce avec ma compagne ou mon compagnon, mon enfant me parle plus, j'ai des problèmes d'addiction, j'ai envie de jeter mon boss par la fenêtre, des trucs très très humains
leur
en fait.
Leur prise de tête d'humain quoi finalement.
Ouais, c'est ça, c'est un truc très très humain. Et bien sûr qu'il y a des endroits où ça peut être sexué, je sais pas, ils peuvent avoir pas aimer leur corps d'homme, avoir des problèmes pour bander, ou avoir de l'addiction sexuelle, ou... Mais en fait, pour aborder ces problèmes-là, c'est 10 fois plus dur de le faire face à l'autre sexe, parce qu'on n'a pas été habitué à... Alors, c'est peut-être un truc culturel, c'est peut-être un truc naturel, ça je pose pas de regard là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus simple pour aborder ces sujets-là d'être dans des groupes...
Non mixtes.
Ouais.
Ok. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que je. Donc tu disais Angelo Follet. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas forcément.
Non,
un
parce
truc
que.
Très...
Ouais, parce que la thérapie en France, elle est très, très freudienne. Et là, c'est une toute autre approche qui, en fait, n'est pas vraiment de la thérapie. Et d'ailleurs, on en parle dans le film. C'est plus du compagnonnage. Mmh.
Oui, c'est de se retrouver ensemble et en fait de créer des liens.
De créer des liens, mais d'apprendre à créer des liens. Pour que tu puisses les créer, le répercuter sur le reste, c'est ça aussi le truc. C'est pas comme les clubs Man's Only où on reste entre nous pour se refiler des contrats et réseauter. Tu vois, c'est pas du tout ça.
Ça ressemble peu pas.
C'est pas du tout ça. Là, c'est ok. En fait, la semaine dernière, tu m'as dit ça. Là, tu me dis ça. C'est pas du tout la même histoire. T'es en train de nous bullshiter là. C'est quoi? Pourquoi tu nous bullshites? Pourquoi t'as peur en fait? Qu'est-ce qui se trame derrière? Et donc, tu vas vraiment travailler sans jugement avec la personne pour qu'elle aille au bout de son exploration et qu'elle puisse le ramener ensuite, cette personne, auprès de sa compagne, de son boss, de sa vie en dehors du groupe. C'est ça qui est important.
Ça rejoint vachement ce qui se fait aussi dans ce fameux... dans cet autre documentaire que tu m'as fait découvrir.
Ouais.
The Work.
Mais la folie, ce truc, la folie. Et en fait, Jerry fait la même chose, mais pas en prison.
Oui.
Pas avec c'est la même chose.
C'est ça, oui. Et puis surtout, ils le font entre eux. Enfin, ils le font entre eux. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui se passe aussi au sein du groupe de Jerry. C'est ça que tu disais. C'est que
oui, c'est ça.
Ils se rendent accountable entre eux aussi.
Ouais,
quoi.
Exactement.
Ah, c'est quoi? Alors attendez, bougez pas. Je vais vous montrer la bande-annonce.
Ah, bah oui, il faut absolument voir ce film. Attendez, on peut le voir du coup?
Non, on peut voir la bande-annonce.
On peut voir la bande-annonce.
Le film n'est pas trouvable en France pour des raisons.
Moi, je peux vous dire que j'œuvre pour qu'il soit trouvable bientôt.
Oui.
Ce film, je l'ai vu 5 fois. dont une fois avec toi.
Oui. Alors, il est disponible. Sachez-le, en version non sous-titrée sur si vous tapez The Work. Alors attendez, hop, hop là, voilà. Il faut faire appel au toto américain, tout à fait, parce que actuellement, on n'est pas foutu en France de trouver quelqu'un qui est prêt à l'acheter quoi et à le diffuser. Ah tiens, c'est hop. Est-ce qu'il y a un lien là? Est-ce qu'il est disponible quelque part? Pas du tout. Ok, je vais regarder, hein, pardon. Je vous mets la bande-annonce, vous allez chialer. Voilà, tout simplement. j'ai envie de te dire, ça part sur de la chialette. Non mais, sérieux.
Mais c'est un
ce
choc,
truc.
Hein, ce film est un choc. Hein.
We're going into a maximum security prison and you're being watched right now.
En gros, c'est dans une prison de sécurité maximum.
When I thought about the opportunity, it seemed just crazy enough to like really wake me up a little bit.
This is a path that I need to take to better find out who I am as a person.
Pour vous expliquer rapidement le contexte, c'est que effectivement, dans ces groupes de parole au sein de la prison, il y a des civils qui peuvent venir. Mmh. Et donc, nous, en fait, au sein du documentaire, on suit les civils dans ces groupes de parole, notamment quatre gogos. Les pauvres, ils savent pas vraiment quand
It'll
ils arrivent, à quoi ils s'attendent.
But that's kind of, I don't know, what keeps me sort of interested in it.
For 4 days, let's be what we could be.
Je connais par cœur.
That's right.
This whole process of going down into the wound is not an end in itself.
Is that what you do? Sit there and judge me?
I'll be trying. Nothing I can do or say, man.
We're looking for something and we're bringing something back out of that descent.
Open your eyes.
You trust me? Well, let's step into that fear. Now's the chance to see what you got in you.
Zimbabwe. Zimbabwe, 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 Zimbabwe.
Mon Dieu.
Voilà.
Non mais c'est un film incroyable, incroyable. Et donc nous on voulait faire un truc sur la thérapie mais qui soit du coup pas The Work parce que c'était pas possible. Mais
ouais.
Mais
bah là disons que les mecs ils sont dans un tel état de. Alors t'as à la fois les gars qui font ça depuis quelques années et qui ont tout le temps du monde disponible pour réfléchir à tous les méfaits qu'ils ont pu faire parce que prison de sécurité maximum c'est des mecs qui ont fait des braquages, qui ont tué des gens, qui ont kidnappé des gens, etc., etc. Et à côté de ça, t'as ceux qui arrivent et qui viennent pour la première fois.
Oui, qui sont comme toi et moi, c'est-à-dire qui n'ont rien fait de mal. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que les personnes qui sont à l'intérieur et qui font ce work depuis 15 ans sont devenues des grands sages. Et c'est eux qui libèrent le mec qui est à l'extérieur, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est fou, c'est que. Ils vont libérer spirituellement les trois gars là qu'on suit. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et ce travail, c'est un travail de l'âme qui est un travail vraiment... qu'ils essayent d'être au plus près d'une universalité. Et si des gars qui sont allés aussi loin que tuer d'autres personnes, etc., peuvent revenir... Et il y a le peu de personnes qui sortent, en fait... puisqu'il y a quand même des personnes qui sortent.
C'est les mecs qui passent par là.
Alors, de toute façon, ils sont obligés de passer par là, mais il n'y a aucune récidive. Il y a zéro récidive. En France, il y a quelque chose comme 60% de récidive. Donc, il y a un moment donné où on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent et ce n'est pas uniquement des discours, tu sais, de bisounours, de toute façon, les humains sont tous beaux, etc. C'est aussi un truc d'efficacité, de voilà, quand on va faire ces chemins d'âme et de guérison, il y a quelque chose qui fonctionne. Et je trouve ça incroyable.
C'est pour moi, c'est l'un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu.
Ouais.
La première fois, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Mm-hmm. Et en fait, c'est très drôle parce que.
On avait fait un cercle après.
Ah non, mais.
C'était
mais moi, la première fois, j'étais tellement pas à l'aise devant les réactions folles de ces mecs qui ont des montées de colère et d'émotions et de pleurs, etc. Qui est complètement, tellement disproportionné, en tout cas de ce que toi tu
oui,
t'as vis
l'habitude,
d'extérieur.
Voilà,
quoi,
disproportionné par rapport à un référentiel où il n'y a rien. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, notre référentiel, c'est zéro. C'est encéphalogramme plat, quoi. Et donc, en fait, je me rappelle, là, mon frère, du coup, avait fait aussi un podcast dessus en disant, mais en fait, j'étais tellement mal à l'aise la première fois que je l'ai vu. Et alors qu'en fait, ils expriment juste une émotion qui est totalement naturelle. Et on est tellement déprogrammé pour recevoir ces émotions. Et en fait, surtout chez les hommes, en fait, on est totalement déprogrammé à avoir des émotions masculines. Et c'est leur enlever toute une partie de leur humanité, en vérité.
Clairement.
Ouais.
Alors, venez sur Discord, si vous voulez bien. Je vous le filerai. Ok, mais... non, mais il faut... Si ça vous intéresse, venez sur le Discord. Mais en fait, il n'existe pas aujourd'hui de version, donc t'es obligé de le filer sous le manteau. Et en fait, c'est extrêmement triste qu'il n'y ait pas de possibilité de diffusion, quoi. Que fait Netflix? Que font ces plateformes? Alors qu'il y a eu, en plus, il y avait eu The Mask You Live In il y a quelques années sur Netflix, qui était l'un des tout premiers docu aussi. Ça te parle
non,
pas,
ça?
Qui était là, pour moi, le tout premier docu sur la masculinité, où il montrait des mecs hyper baraqués, qui expliquaient justement hyper masculin, hyper viril, etc. Et qui expliquaient que eux-mêmes étaient revenus et qu'ils avaient enlevé le masque en fait de la virilité. Il y avait tout un docu qui faisait une heure et demie, je crois, qui n'est plus dispo aujourd'hui sur Netflix, et qui pour moi était vraiment le premier docu de tous les temps qui parlait de masculinité,
en tout cas
aussi ouvertement. Quoi.
Mais je pense que c'est ça qu'on vient tous chercher sur cette très longue et parfois un peu houleuse discussion sur le genre. C'est qu'en fait, les femmes, quand elles se sont réveillées après MeToo, c'est ça qu'elles voulaient dire. C'est en fait, on veut notre dignité pleine et on veut être juste réhumanisé. On n'est pas que des objets à violer, quoi, tu vois. C'est ça qu'on voudrait. Et en fait, on a le même travail à faire chez les hommes, parce qu'on se rend compte que le patriarcat, ok, oui, on peut pas dire qu'il aime les femmes, mais il aime pas beaucoup les hommes non plus.
Non.
En fait, et ça, il faut vraiment qu'on soit pas du tout les uns contre les autres et qu'on avance ensemble pour réhumaniser cette culture, quoi. Et on a tellement de choses à se raconter, en fait. Donc, dans l'intime. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est là où ça déjoue tout ce qu'on entend par ailleurs, tout ce qu'on entend dans les médias, et toutes les solutions qu'on trouve dans l'intime, c'est incroyable.
Au sein des couples.
Ouais, au sein des couples. Nous, pour notre famille, ça a été incroyable, le process des rivières. Ce qu'on, et de créativité et de... Et oui, ça paraît fou, c'est-à-dire qu'on va dépasser des traumatismes ou de profondes disputes, etc. Mais en fait, ouais, t'y arrives. Et pour ces hommes-là, voilà, dont certains ont subi des incestes, des abus sexuels très graves, et ben, dans ces groupes, on y trouve de la réparation, on y trouve de la guérison, et on y trouve surtout un sentiment d'intégrité et de recollecter toutes les parties de toi-même. Et ça, c'est que tu sois homme, que tu sois femme, peu importe en fait.
Gros taf,
mais trop génial.
C'est génial ce que tu dis sur l'intime, parce que finalement, effectivement, il y a vraiment un vrai truc politique aujourd'hui, je trouve... dans l'intime, d'aller chercher, d'aller creuser dans sa propre intimité à soi et dans son intimité familiale, comme tu dis, pour finir par le faire ressurgir sur la société.
Ouais, totalement. Il y a un lieu là de puissance ou d'un potentiel de puissance qui est incroyable. Incroyable. Et là, à cet endroit-là, il y a plein de mains qui sont tendues. C'est ça que moi, j'avais pas conscience de ça avant de commencer les rivières. Mais t'as plein de mains tendues, soit de gens autour de toi, mais après aussi de professionnels de la santé, qui ont plein de techniques différentes, qui sont alliés, qui ont leurs obsessions sur le corps, sur peu importe, mais il y a plein de gens comme toi qui créent du contenu, il y a des bouquins, je pense qu'aujourd'hui on a tellement d'outils, quoi, c'est dingue. Et c'est génial, hein. C'est vraiment génial. Et bien sûr que ça secoue, mais c'est pas tous les jours qu'on peut changer la culture. Enfin, tu vois, c'est fou ce qu'on est en train de faire là.
J'allais te demander comment le film est réceptionné là sur les premiers. Donc, vous l'aviez montré un peu, bien sûr, à votre cercle d'amis, à votre cercle de proches, famille.
Oui, alors
etc.
Moi, je fais toujours comme ça.
Tu fais beaucoup de bêta-tests.
Je fais beaucoup de bêta-tests parce qu'en fait, je suis très solitaire dans la création, et donc j'ai toujours des nano équipes de deux.
Des nano-équipes. Tu veux dire des binômes.
Voilà. Et donc, quand on est sur des longs métrages, c'est hyper dur de communiquer totalement tout ce que tu veux. Et donc, je vais toujours tester pour voir si les gens comprennent ce que je veux dire.
Ouais.
Et parce que, en fait, je sais pas, tu crées pas juste pour t'exprimer, en fait. Tu crées pour t'exprimer, mais aussi pour donner quelque chose aux autres, donc il faut qu'il se soit compréhensible ton message. Donc,
oui, parce que une fois que t'es que dans ta tête,
ouais, c'est pas terrible.
C'est pas fun.
Non.
Et alors, qu'est-ce que ça raconte?
On voudrait sauver ses élèves, les femmes et bien. Mais si t'avais en sauver, bah ouais.
Ah oui.
Ouais, bien sûr.
Oui, on voudrait sauver le monde, c'est
non,
sûr.
On veut tous sauver le monde. On est tous en rage là sur le monde qui nous entoure. Mais je me rappelle d'une fois où quand Trump a été élu. J'ai fait une dépression, mais vraiment, et jusqu'au jour où c'est l'anniversaire de ma fille, j'arrive pas à lui acheter un cadeau, tu vois.
Oh,
ouais,
okay.
Ouais, moche. Et je me rappelle d'une amie proche, tu vois, qui m'a vraiment repris par le col comme ça, elle fait « Non, mais là, tu fais n'importe quoi. Tu penses que tu vas sauver le monde ?» Non, en fait, tu vas pas sauver le monde. Mais si tu pouvais apprendre déjà à te protéger, ce serait pas mal, parce que là, tu ne sers à rien. Elle m'a dit « Là, tu sers à rien, Maï, en fait. » La chialer, ça n'aide personne. Donc déjà, prends soin de toi et tu seras une personne de qui on n'aura pas besoin de prendre soin, tu vois. Donc et ça m'a un peu révolutionné intérieurement cette discussion parce qu'elle avait tellement raison, quoi. Et encore une fois, dans cet endroit-là, il y a plein de choses. Qui vous donne de la puissance et qui, par ricochet, va aider les femmes à gagner. Mais par ricochet seulement.
Ouais. Mm. Tu m'expliquais, avant qu'on démarre, qu'il y avait beaucoup de femmes qui regardaient le film.
Ouais.
Et pas des masses d'hommes, finalement.
Il y a beaucoup d'hommes.
Ça va.
Après, moi, je viens des réseaux sociaux et le blog, comme mon Instagram et tout, j'ai
pas les... T'as une commu féminine, quoi.
Ouais, j'ai une commu très, très féminine. Et donc voilà, c'est logique que ma communauté soit curieuse sur ce projet. Et ouais, les femmes adorent ce film parce que c'est comme pour les rivières, il y a plein de choses qui ne peuvent pas passer par juste de la philosophie ou de la parole ou une prise de position politique. Ça marche pas, en fait. Et parfois, juste regarder un film pose... l'intention juste ou la position juste qui ensuite donne les mots justes. Et donc là, c'est un mélange où ces gars, en fait, je sais pas, mais moi je me rappelle que quand je les ai entendus parler de sexe, je me disais, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de sexe comme ça. Et c'est tellement beau et ça me fait un bien fou d'entendre cette parole et puis de savoir que certains hommes pensent comme ça ou sont allés explorer leur sexualité de cette manière pour y poser ce regard-là. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, dans les couples hétérosexuels, il y a beaucoup de tensions. Parce que depuis MeToo, les femmes, elles font leur révolution et elles sont en train de se déployer. Et c'est bon, en fait. C'est incroyable le chemin qu'on a parcouru.
Mecs restent un peu à côté, quoi.
Exactement. Mmh. Mais parce que je pense aussi que les mecs, on les met dans une... Enfin, il y a un discours en ce moment, et on sait que l'histoire unique, c'est très dangereux. C'est la fameuse histoire unique. Et il y a qu'une seule, il y a qu'un seul narratif aujourd'hui, c'est la masculinité est toxique. Et en fait, on peut pas se déployer en tant qu'homme si on se dit que en se déployant, on va devenir toxique. Et c'est exactement ce que, c'est pour ça qu'on a commencé le film avec ce que dit Jerry, parce que si on se déploie de cette manière-là, en fait, il y a toute une partie de soi auquel on est obligé de renoncer. Et donc, si on est dans un parcours humain, on peut pas renoncer à une partie de soi qui deviendrait toxique. On doit la parcourir pour voir ce qu'il en est. On doit parfois aussi demander pardon. Je pense que moi, il y a plein d'hommes qui sont venus me voir, tu vois, pour me dire, mais la vérité, c'est parce qu'il y a eu tout un mouvement, Not All Men et tout. Et tout.
Ouais.
Non, mais attends, sans déconner, on vous parle pas de ça. Si on vous dit 80% des femmes ont subi une agression sexuelle, pourquoi vous revenez en nous disant Not All Men? Vous pouvez, déjà, est-ce que vous pouvez nous prendre dans vos bras? Est-ce que vous pouvez me dire, putain, mais je suis désolée, quoi, je t'aime, je suis dévastée d'entendre un truc comme ça? Est-ce que vous pouvez nous dire ça déjà? Donc, est-ce que vous pouvez avoir de la considération pour nous et notre expérience? Et donc, tu vois, c'est de se, vraiment essayer de se remettre du même côté. Et quand, du coup, t'as voilà, des paroles comme ça d'hommes qui ont appris à être compassionnels, qui ont appris à accueillir l'autre dans sa vérité, bah, tu dis, waouh, ça me fait du bien parce que mon désir n'est pas de vivre dans une société avec que des femmes. Il y a très peu de femmes, en fait, dont le désir est de... Mais par contre, il y a aussi peu de femmes maintenant, je pense, qui, en se déployant, vont se dire « Lui, il veut pas se déployer, je peux pas l'attendre, en fait, j'ai une vie à vivre. » Ça, c'est vrai que ça va créer des...
Ah, c'est sûr et certain.
Ça, c'est sûr et certain. Et je pense aussi, quand je te disais que je suis tombée amoureuse de ces gars, il y avait un vrai truc de... Quand je vois ces hommes qui parlent de cette manière-là, ou qui sont ceux qui sont, il y a un truc d'amour, tu vois, qui s'ouvre. Et je me rappelle que quand j'avais fait ma liste au Père Noël, tu vois, quand je voulais chercher un mec, je voulais un mec adulte. J'avais écrit, je voulais un mec adulte. Et je pense qu'il y a un truc qui se joue autour de ça. De, peut-être qu'on était dans une sorte d'enfance, et dans une sorte, c'est ça qui donne de l'impunité, beaucoup d'ego, beaucoup de. Et là, on est en train de grandir, mais il faut qu'on grandisse ensemble si on veut continuer ensemble.
Ouais, clairement.
Et pour grandir, bah, il n'y a pas de raccourci. Et ouais.
Il y a un travail à faire.
Il y a un travail à faire.
The work, on y revient toujours.
Voilà, on y revient à the work, il y a un travail à faire, et qu'il y a un travail difficile, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour le faire. Et donc, si on laisse un peu tomber les masques de l'homme providentiel, d'une personne extérieure qui va venir nous sauver, on a tous du taf. Et si on taffe tous, c'est vraiment génial. Parce que, évidemment, que les premiers bénéficiaires de ce travail-là, ben, ce sont les hommes eux-mêmes qui le
font.
Bien sûr. Mais c'est leurs enfants, c'est leurs femmes, c'est... Ben oui, bien sûr. Parce que quand t'as quelqu'un qui sait se remettre en question, ça vaut tout l'or du monde, quoi.
Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du fait qu'on vient toujours, en ce moment, attacher masculinité à toxique. C'est un vrai grand mouvement.
Ouais.
J'ai vu qu'aux US, il y avait un truc qui sortait qui était conscious masculinity.
Ouais,
donc masculinité consciente.
Ouais.
Et je trouve que c'est cool aussi,
c'est
tu
beau,
vois,
c'est très beau,
de venir se dire, bah, ok, en fait, j'essaie de me prendre tel que je suis, de peser le pour, le contre. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans la démarche de Jerry. Je vous rappelle que nous avons fait un épisode de podcast ensemble où justement il parle de tout ça, quoi, tu vois. Mais oui, Edgar, il y a des trucs très très cool. Je te présente Edgar dans le chat qui est super, qui a 17 ans, qui est avec qui
Salut,
on a fait
un épisode
d'histoire de mec qui racontait un petit peu toutes ses prises de tête autour de la masculinité à 17 piges. Oh, qu'est-ce que c'est beau, quoi.
Ouais, et moi, tu vois, il y a des gars qui viennent me voir en disant, bah, moi j'ai 30 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, ça me fait un bien fou de voir des mecs de 50, 60, 70 ans qui parlent comme ça, qui ont cette expérience à nous transmettre, parce que je peux pas juste vivre avec... Je sais pas, j'ai pas de réponse sur que doit être le genre demain, tu vois. Je trouve que je trouve qu'on s'en fout un peu.
Ouais.
Mais moi, je comprends totalement que les femmes disent on a besoin de rôle modèle féminin, et je comprends totalement du coup que les mecs se disent ben on a besoin de rôle modèle masculin, quoi, tu vois.
Ouais.
On peut pas juste avoir Trump et Elon Musk. C'est pas possible.
Oui.
Et on peut pas faire grandir aujourd'hui un garçon ou un jeune homme ou. Un futur adulte en lui disant ne sois pas masculin sinon tu seras toxique. C'est hyper toxique. Ça, c'est hyper toxique en vrai. Donc, c'est à nous de mettre derrière ces mots-là les valeurs qui soient justes.
Trop bien. Mmh. Ah, il y a Guillaume Léville. Donc, Guillaume Léville qui a fait un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, sur la contraception masculine, justement. Ça aussi, un gros sujet chez
gros
les mecs.
Gros sujet, ouais.
Lui, il a fait un docu de 52 minutes, justement, sur... qui s'appelle Le problème du pantalon, et il est venu présenter son docu, tu vois, sur Twitch, et Edgar a fait en sorte que le docu passe dans son lycée. Donc,
génial,
bravo Edgar, la classe.
Mais les jeunes, ils sont trop bien maintenant.
Oh là là.
Franchement, j'adore.
Bah oui.
Bah ouais.
Ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, quoi.
Ouais,
tu vois.
Ouais, mais c'est cool, ça veut dire que.
Il y a bon espoir.
Mais bien sûr, bien sûr. Et ce que je vois aussi avec ma fille, c'est que...
Donc ta fille
qui a 15 ans. C'est que leur groupe de potes sont mixtes. Et tu vois, ça nous a manqué aussi d'amitié, de vraies amitiés filles-garçons. Mmh. Où du coup, les garçons peuvent comprendre les filles peuvent comprendre les garçons. Et tout ça est mélangé et fait partie d'un tout. Mais dans un respect humain, quoi. Que je trouve profond et qui doit être le socle de toute relation.
J'ai vu un thread sur Twitter passer cette semaine. Bah d'ailleurs, je l'avais posté dans le Discord. On a eu toute une discussion à ce propos. C'était une fille qui disait « Est-ce que vous savez me nommer 5 mecs 6 ?» Alors, je crois qu'elle voulait dire 6 hétéros. « Avec qui vous pourriez passer 24 heures enfermés, avec de l'alcool, etc. et avec qui vous vous sentiriez complètement à l'aise ?» Et en fait, il y en avait plein, et même dans le Discord, qui disaient « Bah moi, j'arrive pas à trouver, quoi. »
Ah ouais.
Hors frère, sœur, tu vois.
Ouais.
Si t'arrives hors frère, famille, etc. Et je trouve que ça aussi, ça en dit long sur la nature des relations entre mec et meuf, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Mais est-ce que ça voulait dire j'ai peur de me faire violer ou est-ce que ça voulait. Ah oui, okay.
Bah, ça veut dire je me sens pas safe avec. J'ai du mal à trouver 5 mecs dans mon entourage avec qui je pourrais me sentir safe, à être enfermé 24 heures, et à discuter, enfin tu vois, à vivre, quoi, tout simplement.
Ok. Donc, alors moi, c'est très différent parce que moi, j'ai 5 frères.
Oui.
Et ça, je me suis rendu compte de ça aussi pendant le processus de Make Me a Man. C'est que j'avais un désir de retourner aussi dans cette fratrie. Et tu sais, il y a un truc, quand tu vois ça, justement, et tu dis, putain, mais si on avait grandi comme ça, avec des hommes qui nous apprennent à parler, qui nous apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, qui nous apprennent à être aimés tel que l'on est et qui nous accueillent comme ça avec amour, mais on aurait une fratrie tellement plus heureuse, tellement plus épanouie. Et pourtant, tu vois, on est vraiment unis, mais tu vois, on s'adore avec les frères. Mais il y a un truc où tu as envie de casser des chaises, tu vois. Et je pense qu'il y avait ce désir de retourner dans une communauté d'hommes parce que mes frères m'avaient manqué.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Il y a Pistachio Note qui dit d'ailleurs, c'est pas pour faire lèche-botte, mais je trouve que l'âme est un super modèle pour les jeunes garçons, surtout dans le milieu du jeu vidéo.
Bien sûr.
Ou soyons honnêtes, c'est pas tip-top en termes de masculinité consciente. Peut-être que toi, Pistache, tu le mesures, mais je crois que c'est très dur de mesurer l'impact qu'a pu avoir l'âme pendant toutes ces années chez jeuxvideo.com, sur le stream, etc., à venir donner un parcours, un discours de fond, pas du tout sexiste, en dehors des normes, etc., et sans forcément même le revendiquer, juste en l'étant.
Juste en l'étant, en incarnant.
Je suis très d'accord avec toi, vraiment.
Ouais, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti. Hein.
Oui. Mm. Parce que ça finissait par devenir compliqué.
Ouais, parce qu'en fait, il voulait plus... Enfin, c'était à l'époque de ce qui était sorti sur Ubisoft et de MeToo Ubisoft, grosso modo. Et comme c'était un annonceur, il n'a pas pu couvrir l'information en tant que journaliste. Il a dit, ça ne va pas être possible.
Mmh. Ok.
Donc voilà, j'aime mon frère l'âme parce qu'il a des valeurs.
D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un épisode du Boys Club avec lui. Hein. C'est genre le numéro 2 qu'on avait fait il y a fort longtemps. J'aimerais bien faire un deuxième. Je lui avais proposé de faire un épisode 2 depuis le temps. Ouais. Mais tu vois, je le travaille encore. Est-ce que, à moins que vous ayez d'autres questions sur le chat, mais je vais libérer Maï de la laisser rentrer dans ses penates. C'est comme ça qu'on dit, penates.
Non, je ne connais pas.
C'est genre chez toi, quoi.
Ok. Allons dans les penates.
Les meilleures choses ont une fin.
Quelqu'un peut poser une question si tu veux.
Si tu souhaites poser une question, c'est le moment. Et puis après, sinon, on va. En tant que gamer, je le trouve incroyable et je serais trop contente d'avoir un épisode 2. Écoute, je le note, je vais te
Je lui dirai. Je vois bientôt.
merci beaucoup, Maï. En tout cas, c'était super de t'avoir.
Merci,
vraiment.
Merci à vous.
Est-ce que, ouais, c'est pas ton premier live Twitch, mais on va raid quelqu'un. Tu sais comment ça marche, les raids sur Twitch ou pas?
Tu envoies les gens sur un autre profil.
Est-ce que t'as une projection prévue en Gironde, j'imagine, des rivières?
Pas pour l'instant, mais peut-être qu'on va faire quelque chose à Bordeaux, ouais.
Okay.
Mais je vous préviendrai.
Ah oui, c'est chiant, j'ai changé
des mon... deux.
Tu sais, j'ai changé mon mot de passe. J'ai plus. Est-ce que vous avez des
gens... À Toulouse, il y a quelque chose qui va être
okay.
qui va se faire avec les deux films.
Ok. Mmh.
Dans un lieu qui s'appelle le Télégraphe pour la fin novembre a priori.
Ok. Bon, après Gironde, Toulouse.
C'est pas tout à fait ça, mais voilà.
Est-ce que vous avez des gens vers qui je peux raid? Parce que pour tout.
Oh, vous... les garçons mettent du rose sans honte aujourd'hui.
Aujourd'hui,
tu viens au Hall.
Ouais, à Paris. Je crois que c'est ce que Vagabonde peut dire. C'est peut-être sans doute plus compliqué en dehors de Paris. Non? Je crois.
J'en sais rien, parce que moi je trouve que les choses sont de plus en plus. Toute cette culture un peu post-genre, elle se fait sur les réseaux sociaux. Et...
Ah ouais, tu trouves?
Ouais.
T'as écoute, ouais.
Moi, je trouve que tu vas n'importe où et les boules.
Mon petit garçon ne veut pas mettre de chaussettes roses.
C'est pas grave
oui,
du tout.
Oui, ça viendra.
Non, c'est pas grave du tout. Et laissez vos enfants, qu'ils soient filles ou garçons, jouer aux pompiers et aux princesses. Parce qu'ils sont en train d'explorer, c'est pas grave du tout.
Tranquille.
Et pareil, s'il y a un rejet de l'autre sexe, pour un petit temps, c'est juste une peur. Mais vous pouvez parcourir ça avec vos enfants.
C'est trop intéressant.
Ils peuvent pas être...
Bon, je vous envoie chez Gaël, alors. Tu connais Gaël Mektoub, qui est un ancien du studio Bagel, etc. etc. Je vous fais un gros bisou.
Gros bisous.
À toutes et à tous une belle soirée. Merci beaucoup. Belle fin de semaine. On se retrouve lundi soir, ici, à 21h, avec Christine Béroux, où on va faire Radio Libre / interview, parce qu'elle a sorti un bouquin qui s'intitule « Le jour où j'ai compris que c'était moi, la personne toxique ».
Ah bah oui, mais il faut de plus en plus de prise de parole comme ça. Gros travail, bah bien sûr.
Belle soirée à toutes. Merci beaucoup, Maï, encore d'être venue. C'était trop bien. Je vous envoie chez Gaël. Soyez gentils. Hein. Dites bonjour aux gens et tout. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Allez, des
bye
bisous.
Bye bisous.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.